Art Interview, rencontre avec un artiste, un acteur du monde culturel. Il conserve un exceptionnel Velázquez, un magnifique tableau des frères Lenain, une des plus grandes collections françaises de pastels, 50 000 dessins et gravures. Art Interview est cette semaine au Musée des Beaux-Arts d'Orléans qui cache bien des trésors. Julie Boucher est allée à la rencontre de son conservateur.
Corentin Durie, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir dans votre bureau. Vous venez de me faire visiter ce musée et j'ai découvert un musée vivant, un musée aussi en transition. Vous m'avez dit que c'est un musée par les Orléanais, pour les Orléanais, et ça c'est très important.
Exactement, puisque nous avons une collection qui, à l'origine, n'a pas bénéficié, comme beaucoup de musées en France, la diffusion des collections nationales sur tout le territoire suite à l'édit Chaptal. Au contraire, ici, le conservateur a décidé de faire appel aux Orléanais en passant des annonces dans la presse, en leur demandant d'offrir leurs collections, leurs œuvres, pour créer un grand musée à Orléans. Et le fait est que ça a très bien marché. La grande partie de nos collections anciennes est arrivée à ce moment-là, et on a comme ça les Orléanais qui se sont mobilisés, et nous avons donc une collection très spécifique, puisque le goût qui ressort de cette collection, les spécificités de cette collection, notre collection nordique, notre collection de pastels, tout cela, c'est des choses qui sont des aspects qui n'ont pas été créés par des conservateurs, mais bien par les Orléanais.
Alors je disais que c'est un musée en transition, c'est un musée qui a fait peau neuve aussi et qui n'a pas fini sa mue. Est-ce que vous pouvez nous dire vers quoi se dirige le nouveau design ?
Alors justement, c'est un musée qui a complètement changé depuis la fin 2015, puisque étage par étage, on reprend tout. On change les couleurs des murs pour essayer de vraiment coller à chaque époque qui est présentée. On porte une très grande attention à l'éclairage également et on essaye de montrer le maximum de choses par époque. Plus grand chose reste en réserve une fois qu'on a fait le travail. Donc c'est déjà le cas pour le 16e, 17e. On l'a fait pour le 18e l'an dernier et là on projette pour l'an prochain le 19e siècle qui arrive. Et donc on reprend vraiment l'ensemble de la collection. C'est l'occasion pour nous de tout étudier de A à Z, de vérifier qu'il n'y a pas un tableau qui a été oublié qui serait important à montrer, d'essayer de trouver l'accrochage le mieux possible pour expliquer tout ça au public et le tout accompagné de nouveaux cartels qui sont peut-être intimidants de prime abord puisqu'ils sont longs, mais on n'est pas obligé de tout lire. On a les informations essentielles en haut et après, si on a envie, sur un tableau qui est coup de cœur, de lire davantage, on a davantage d'informations qui nous est fournie.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est la scénographie. Elle a vraiment été pensée. On voit que les couleurs sont très importantes. Est-ce que vous pouvez nous prendre un exemple d'une salle pour qu'on imagine un petit peu et qu'on se mette dans l'ambiance ?
Oui, tout à fait. Par exemple, le grand salon italien dédié à la peinture italienne du XVIIe siècle, qui est au deuxième étage du musée, conserve un ensemble de peintures à la fois parfois très colorées pour la Rome du XVIIe, mais également plus sombres avec des jeux de lumière très forts pour la peinture caravagesque qui vraiment caractérise toute cette période du XVIIe. Donc vraiment ce jeu de contraste entre la lumière, les couleurs, tout cela est valorisé dans une salle qui, elle, est de couleur brique, avec comme ça une interaction entre les tableaux et le mur qui correspond en fait vraiment à des coloris que l'on a pu retrouver dans des palais italiens, notamment de l'époque. Donc toujours l'idée de couleur historique que l'on recherche pour essayer de valoriser au mieux les collections, en se rappelant que ces peintures n'ont pas été créées pour être mises sur des murs blancs, mais vraiment ont été créées dans des contextes bien spécifiques duquel on essaye finalement de se rapprocher.
Au fil des salles, on découvre aussi d'autres petits trésors.
Tout à fait, c'est aussi le point de vue que l'on a décidé d'adopter ici, c'est de montrer au maximum les collections et surtout de tout montrer de manière chronologique en présentant toutes les écoles ensemble d'une même époque, divisées par salles certes, mais qui viennent interagir et surtout d'essayer de montrer comment la peinture, les objets d'art, le mobilier, la sculpture, tout cela peut interagir et être vu ensemble puisque finalement au XVIIe siècle vous n'aviez pas un espace dédié à la sculpture, un espace dédié à la peinture, un autre dédié au mobilier où on alignait les chaises. Non, au contraire, on avait vraiment une unité dans tout ça. Tout cela dialoguait et c'est ce dialogue entre les différentes techniques, entre les différentes écoles que l'on essaye de recréer et de montrer pour créer cette atmosphère vivante que l'on espère rendre au public.
Parlez-nous de ces chefs-d'œuvre qu'il ne faut surtout pas manquer. Je pense notamment au Velázquez. Vous avez la chance d'en avoir un. Il n'y en a que deux en France, c'est bien ça?
Exactement, on est vraiment chanceux. Nos prédécesseurs ont très bien fait leur travail en ramenant un tel chef-d'œuvre au musée, puisque ce Velázquez, donc un Saint-Thomas vu de profil, qui en plus a été restauré récemment grâce au mécénat d'une entreprise, et c'est un tableau absolument essentiel qui appartient au joyau des collections françaises, puisque Rouen et Orléans sont les deux seules villes à pouvoir présenter un Velázquez en France. Et c'est un artiste magnifique avec une qualité de peinture, on le voit ici encore relativement jeune à Séville, dans ce tableau d'une très grande force, très sculpturale, où on voit vraiment sortir finalement le sein du tableau dans cette lumière tout en clair-obscur. Donc une pièce absolument incontournable à venir découvrir au musée, avec un tableau de Corrège, un tableau de Carrache, également des très grands formats qui viennent de l'abbaye de Bonne-Nouvelle, actuelle préfecture aujourd'hui d'Orléans, un ensemble comme ça d'œuvres absolument essentielles qu'il faut venir découvrir, et également d'autres tableaux peut-être moins célèbres, mais chacun peut avoir son coup de cœur, le tableau sur lequel on va s'arrêter et apprécier. Et je pense que ce soit pour le tableau, la sculpture, les objets d'art, il y en a pour tout, vraiment tous les goûts au musée d'Orléans.
Tout à l'heure, vous êtes arrêté devant un tableau des frères Lenain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Je crois que ce tableau a fait tout un voyage déjà.
Exactement, c'est un tableau qui est très important pour comprendre la peinture des frères Lenain, ces artistes dont on a encore aujourd'hui du mal à dissocier qui faisait quoi. Ils étaient trois, et c'est vraiment un travail d'enquête finalement que de travailler sur les frères Lenain. Et nous avons la chance d'avoir un de leurs chefs-d'œuvre au musée, à savoir le Bacchus et Ariane endormie, le jeune Bacchus débarquant, découvrant la jeune Ariane qui est endormie sur la plage. Et ce tableau est parti aux États-Unis, a fait deux stations aux États-Unis, notamment à San Francisco, et ensuite allé au Louvre-Lens pour la grande exposition qui était dédiée justement aux frères Lenain. Donc c'est un tableau qui, parfois certains Orléanais ne sont pas conscients qu'il est là, qu'il existe, de son importance, mais pourtant il y a des gens aux États-Unis, en Angleterre, dans le nord de la France, qui sont eux tout à fait conscients de l'importance de ce chef-d'œuvre d'Orléans. Et donc on essaye vraiment de rappeler l'existence de ce tableau à tous pour qu'il retrouve vraiment cette place de chef-d'œuvre qu'il a et qu'il mérite.
L'une des forces de ce musée, c'est aussi sa collection de pastels.
Exactement, nous avons l'un des plus grands cabinets de pastels en France. C'est une des spécificités de la collection depuis son origine. C'est un cabinet de pastels qui est vivant puisque nous l'exposons en partie avec des rotations régulières, avec bien sûr tous les éléments de précaution puisque le pastel est plus fragile que la peinture. Donc tous les éléments de précaution sont adoptés, mais on essaie de toujours montrer un maximum de pastels. Et ce cabinet est également vivant puisque nous continuons à acquérir des pastels. Soit des pastels toujours français du 18e qui fait le cœur de la collection aujourd'hui, mais également d'autres périodes. Essayer de montrer que le pastel existe dès le 17e siècle, ailleurs qu'en France, mais également qu'il existe aussi au 19e siècle. Parfois, le pastel du 19e siècle a été oublié et c'est une redécouverte qu'on essaye d'accompagner aujourd'hui pour montrer que cette période également est très riche. Et on a par exemple eu l'acquisition récemment d'un pastel d'Antonin Moine qui vraiment permettra de montrer dans le cabinet de pastel 19e qui sera présenté à partir de l'année prochaine et de vraiment montrer que cette technique du pastel ne se limite pas à la grande période du 18e siècle que, en général, on associe à cette technique.
En ce moment, vous avez une exposition. Il s'agissait aussi pour vous, j'imagine, de mettre en valeur une partie de votre collection de 12 000 dessins et de 50 000 gravures. Là, on en voit un petit échantillon. Vous pouvez nous expliquer comment vous l'avez pensé, cette exposition?
Alors oui, l'objectif a été vraiment de valoriser cette collection qui est absolument pléthorique. 50 000 gravures, c'est énorme. C'est une collection qui a dû être patiemment étudiée par les équipes ici, notamment les équipes de récollement, puisque avant, on avait l'habitude au 19e siècle de prendre un portefeuille de gravures qui était donné, de le mettre en réserve avec un numéro pour le portefeuille, et on disait lot d'environ 200 gravures, essentiellement italiennes, de telle époque. Et on ne prenait pas le temps, puisque 200 gravures à étudier d'un coup, ça fait beaucoup, on ne prenait pas le temps d'aller dans le détail. Mais nous avons pris le temps d'aller dans le détail avec ce récollement, de donner un numéro à chacune des gravures, de les identifier dans notre base de données pour essayer comme ça de mieux appréhender la collection que nous avons. Et grâce à ce travail minutieux et très important de notre équipe de récollement qui touche bientôt à sa fin, on peut aujourd'hui avoir une vue complète de la collection. Et donc on s'est décidé de faire cette exposition pour montrer du 16e au 19e siècle la richesse de notre fonds en prenant un axe, puisque 50 000 gravures, vous l'avez dit, on ne peut pas tout montrer d'un coup. Donc on a choisi de montrer comment la gravure interagit avec le dessin, comment il y a un jeu de rivalité au XVIe siècle pour essayer d'être l'art le plus précieux et le plus couru des amateurs, comment au XVIIIe siècle la gravure rivalise d'inventivité en créant de nouvelles techniques pour imiter les techniques du dessin, par exemple la manière de sanguine ou la manière de pastel qui parfois trompe les plus grands amateurs. Et au XIXe siècle, c'est la technique de la lithographie, cette technique très simple où il suffit de savoir dessiner pour pouvoir devenir lithographe, qui est utilisée par les romantiques et qui est présentée à travers donc trois cabinets d'art graphique qui accompagnent chacune des salles des musées.
Corentin Durie, vous nous le disiez, votre envie c'était de faire un musée ouvert, un musée qui donne envie. Est-ce que vous avez mis en place dans ce musée des choses qui justement permettent à tous de se sentir libre, de voir l'art même si on n'a pas les yeux de l'expert ?
Exactement, c'est ce que l'on essaye de faire. On a non seulement ces longs cartels qui sont associés à chaque œuvre pour que chacun, encore une fois, ait la liberté de lire ou de ne pas lire, mais les informations sont là et disponibles. Il y a une application qui s'appelle Guidigo, sur laquelle on peut télécharger des parcours en français et en anglais, mais également des parcours enfants avec des jeux, des interactions pour venir visiter en famille le musée, et donc essayer de trouver dans cette masse d'informations qui est disponible ce que l'on souhaite voir, mais tout en se rappelant que certes on peut venir pour apprendre des choses, avoir des informations, mais le musée peut aussi être tout simplement un lieu de déambulation, se trouver entouré de beaux tableaux. On le disait tout à l'heure, finalement, le vendredi soir, si l'on ne sort pas trop tard et que l'on a un peu de temps avant d'aller dîner, venir passer une demi-heure au musée, c'est tout à fait possible. On a même, pour ceux qui voudraient venir régulièrement, un pass à l'année qui est aujourd'hui disponible à 15€ seulement, qui donne accès à tous les musées de la ville et à toutes les activités du programme. Donc c'est un prix qui, il me semble, est peu important et qui permet de vraiment revenir régulièrement, s'approprier les lieux, se trouver son tableau fétiche, avoir envie régulièrement de venir le voir, peut-être de lui parler, et d'avoir comme ça cette intimité avec l'œuvre qui se crée et que n'importe qui peut avoir, encore une fois en connaissant le nom de l'artiste, en connaissant sa date de création, ou tout simplement en sachant qu'on y trouve dans ce tableau ce que l'on a envie de voir.
Il y a aussi l'idée que l'accrochage, il peut changer. Ce n'est pas parce qu'on connaît ce musée qu'on ne peut pas avoir de nouvelles surprises.
Exactement, le musée bouge tout le temps. Regardez le Facebook, le Twitter ou l'Instagram du musée, @mba_orléans. On retrouve toutes les activités qui se passent dans les coulisses, mais également dans les salles. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à voir. Le musée bénéficie de nouvelles acquisitions que l'on essaie de montrer le plus vite possible en salle. Le musée a également des moments où certaines œuvres doivent partir en restauration. C'est l'occasion d'un décrochage et donc de l'accrochage de nouvelles œuvres. On va bientôt avoir plusieurs départs dans les salles 17e que nous allons remplacer par d'autres œuvres. Hors de question de laisser des vides. Nous avons vraiment l'horreur du vide et donc on essaye toujours de présenter le maximum de choses. Donc des tableaux partent en restauration, c'est pas grave, on va en montrer d'autres. Donc n'hésitez pas toujours à revenir. C'est un peu le jeu en arrivant de se dire qu'est-ce qui va être nouveau aujourd'hui. Et les vrais habitués, eux, trouvent toujours ce qu'il y a de nouveau lors de leur visite.
Alors ce qu'on peut quand même dire, c'est qu'il y a une partie du musée qui est encore en aménagement.
Exactement. En ce moment, la rénovation, puisqu'on a dit qu'on rénovait petit à petit chaque étage. L'étage actuellement en rénovation, c'est le 19e siècle, donc il faut être un petit peu patient pour voir cette époque au musée. Ce sera une ouverture au milieu de l'an prochain qui permettra de redécouvrir ces espaces, et les espaces du 20e et 21e siècle au moins un, eux, n'ont pas encore été mis en travaux, donc ils peuvent être découverts dans leur état actuel, mais ils seront en travaux par la suite.
Merci Corentin Durie. Je rappelle que vous êtes le conservateur du musée des Beaux-Arts d'Orléans. L'exposition « Dialogue avec le dessin » est à voir au Musée des Beaux-Arts d'Orléans jusqu'au 19 janvier 2020.
C'était Art Interview avec Julie Boucher cette semaine. L'émission revient bien sûr la semaine prochaine en vous souhaitant une très belle après-midi sur Art District Radio.